Le débat du jour, le choc des civilisations est-il inévitable? Depuis le livre de Samuel Huntington, la thèse d'un péril vert, d'un péril islamiste pour l'Occident a fait floresse. Mais ces derniers jours, elle est singulièrement revenue sur le devant de la scène. Il y a d'abord eu l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, les communiqués et les vidéos d'Al-Qaïda s'en prenant à l'Occident au nom de la défense de l'islam et la réaffirmation par les États-Unis de la guerre contre l'islamisme. Il y a eu ensuite la première conférence à Paris de l'atelier culturel Europe-Méditerranée-Golfe autour de son promoteur Jacques Chirac, inlassable avocat du rapprochement entre les cultures. Il y a eu enfin les propos de Benoît XVI, la polémique qui s'en est suivie et les regrets du Vatican. Alors qu'en est-il exactement? L'islam et l'Occident sont-ils compatibles? Sont-ils condamnés à s'affronter, à engager une lutte à mort au nom même de ce qu'ils portent? Pour en débattre avec nous, Abdelwahab Medeb, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la revue internationale Dédale, vous enseignez la littérature comparée à l'université Paris-10-Nanterre, vous animez l'émission Culture d'Islam sur la radio France Culture et vous publiez au Seuil un recueil de chroniques intitulé Contre-prêche. Également avec nous en studio Alexandre Delval, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, auteur de plusieurs ouvrages, le dernier sur la Turquie, mais plus anciennement, le totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties, c'est le titre aux éditions des CIRT. Alors pour vous, ça y est Alexandre Delval, on est engagé dans le choc des civilisations?
Plus qu'un choc des civilisations, je dirais qu'on est engagé dans un choc entre, d'une part, un islam radicalisé par une poignée d'agitateurs plus comparables à des nazis ou des fascistes ou des communistes révolutionnaires, des totalitaires, qu'à de simples religieux, et d'autre part, pas uniquement l'Occident, ça c'est plus large qu'un choc des civilisations, mais le monde libre, puisque ça implique aussi des nations qui ne sont pas du tout judéo-chrétiennes, mais qui feraient obstacle à cette volonté califale, pan-islamique, qui est celle, je le répète, d'une poignée d'agités, mais qui effectivement appellent de leur vœu un choc des civilisations par leur stratégie chaotique et radicale et barbare. Donc moi, je préfère parler plutôt que d'intégrisme islamique, je préfère parler de fascisme islamiste ou de totalitarisme islamiste. Et donc, plus qu'un choc de culture, c'est un choc de valeur.
Abdelwahab Medeb, est-ce que vous partagez l'analyse d'Alexandre Delval? Est-ce qu'on peut parler d'abord de totalitarisme islamiste? Et est-ce qu'il y a une volonté, effectivement, d'entrer en conflit avec l'Occident?
J'ai un chapitre, enfin, une des chroniques du livre que vous venez de citer, Contre-prêche, qui fait la démonstration irréfutable à partir d'une note de Georges Bataille, qui analyse une note qui a été écrite dans les années 30, lorsque le péril fasciste était tout à fait européen, et la France même, à partir de laquelle écrivait Bataille, n'était pas à l'abri, où il analyse la question du fascisme en rapport avec ce qu'il appelle l'hétérogène, c'est-à-dire où on place le chef à la place de Dieu, c'est-à-dire un lieu hétérogène par rapport à l'homogène que nous constituons, nous, les humains. Partant de ce schème, je parviens à l'idée que cette notion d'hétérogène, là où elle se réalise de la manière la plus complète et la plus absolue, c'est dans la théorie des islamistes telle qu'elle s'est exprimée à travers donc leur ténor depuis des années 50, à travers les écrits de ces sources qui alimentent l'idéologie islamiste, Sayyid Qutb l'Égyptien, Maududi le Pakistanais, ce qu'on appelle la hakamiya en arabe, c'est-à-dire l'interprétation d'un verset coranique d'une manière inouïe, pas du tout connue dans la tradition, qui dit « le pouvoir est à Dieu ». Et cette interprétation dans la tradition, par exemple chez un historien comme Khaldoun, ce verset revient très souvent. Lui qui a réfléchi sur l'histoire, il le comprend dans le sens qu'il y a une part de l'histoire qui échappe à l'homme et s'est compris totalement dans le sens tel que la Providence chez Bossuet, par exemple. Et là, il l'interprète sur le fait que le politique devient l'émanation même de Dieu, même pas d'une manière métaphorique, comme dans la tradition peut-être califale ou sultanesque, où on dit donc que le prince occupe et l'ombre de Dieu sur terre, d'une manière donc stricto sensu et absolue, et si on part à partir de cette remarque de Georges Bataille, on peut estimer que le fascisme le plus radical qui ait été pensé par un esprit humain est celui-là même qui a été pensé par les intégristes.
Donc vous rejoignez Alexandre Delval d'une certaine façon.
Pour ce qui concerne cette question-là, oui, et le point de rupture n'est pas entre islam d'un côté et Occident de l'autre, je ne le pense pas du tout. C'est ce que veulent les islamistes. Et le choc des civilisations est exprimé depuis la naissance et l'émergence de l'islamisme en tant qu'anti-occidentalisme, c'est-à-dire à la fin des années 20, en Égypte, parce que c'est une pensée inouïe et nouvelle. La tradition théologique réformiste du 19e siècle était plutôt profondément occidentalophile. Elle était fascinée par l'Occident, elle cherchait à s'adapter en restant fidèle à elle-même aux nouvelles valeurs occidentales qui les fascinaient.
Ça veut dire que l'opposition dont on parle beaucoup en ce moment entre islam et Occident, Alexandre Delval, elle est un peu factice, elle est un peu fabriquée.
Je dirais pas qu'elle est factice, parce que le problème, c'est quelque chose de faux peut devenir vrai. Si l'Arabie Saoudite continue à être appuyée par l'Occident, et je l'avais écrit dès 97, et ce qui est une erreur fondamentale, bon, on peut pas non plus nier cet état, mais si l'Arabie Saoudite et les différentes structures islamistes salafistes d'un côté sunnite, mais aussi islamistes radicales révolutionnaire chiite de l'autre, continue à bénéficier soit de la complaisance, de la peur, de la collaboration, voire de l'appui, pour ce qui est les pays du Golfe, de l'Occident et pas uniquement des États-Unis, eh bien, cet islamisme radical, fascisant, totalitaire a un bel avenir devant lui. Et le but de l'Arabie Saoudite, qui n'est pas un État comme les autres, c'est une sorte de, comme a dit Antoine Sbazbouz, de Vatican de l'islam, mais c'est beaucoup plus. Le mot Vatican n'est même pas propre, c'est une sorte de théocratie sur État, piloté sur État, qui a pour but d'empêcher, de faire échec à l'islam modéré, ou gérer l'islam tout court, non totalitaire dans le monde. Malheureusement, ce qui était au départ une minorité, une poignée, est en train de fanatiser, non pas une majorité de musulmans qui reste, je dirais, entre guillemets, modérés, mais la quasi-totalité des organisations islamistes qui ont pignon sur rue, hélas, dans la plupart des pays musulmans, mais aussi en Europe, et ça c'est très grave, et aussi aux États-Unis, et aussi en Angleterre, sont tenus, sont encadrés par des radicaux. Donc si vous voulez, même si la majorité reste modérée, et si c'est pas un choc de civilisation, à force de laisser faire en sorte que l'Arabie Saoudite et les différents radicaux possèdent, contrôlent les grandes organisations de représentation de l'islam à l'échelle internationale comme nationale, eh bien les masses vont finir par être fanatisées. D'autant que cet islamisme, comme le nazisme jadis, utilise le grand secret, le levain du totalitarisme, qui est la rancune, la rancœur, la jalousie, la théorie du bouc émissaire, et aussi le victimisme. D'où la rencontre entre certains mouvements d'extrême-gauche anti-racistes, ou soi-disant antiraciste, très radicalement antisioniste, et d'autre part, des islamistes qui trouvent dans le discours victimiste, et qui n'a rien à voir avec l'islam au départ, et le discours de l'intégration, de la pauvreté, de l'immigration, un levier pour faire passer une théocratie, un obscurantisme qui n'aurait pas été accepté au départ par des masses, mais le faire passer sous couvert de progressisme antiraciste, de tiers-mondisme, d'antisionisme ou de lutte pour la justice.
Abdelwahab Medeb, ce victimisme, ce discours dénoncé par Alexandre Delval, est-ce que vous estimez aussi comme lui que finalement il va participer à un choc de civilisation sur le territoire européen, ou en tout cas d'une façon plus générale, en Occident tout simplement? Est-ce que le péril, il n'est pas aussi interne, si je puis dire?
J'élimine la notion de choc de civilisation. J'estime que si on a affaire à une guerre, et on a affaire à une guerre, il s'agit d'une guerre civile. Une guerre civile à l'intérieur même déjà des monothéismes et des interprétations monothéistes, et le phénomène...
Donc à l'intérieur de l'islam, et puis à l'intérieur des autres
religions monothéistes, du christianisme, par exemple. Il y a un péril, et il y a une guerre des idées aussi, pas seulement une guerre des armes, qui est très très forte, et à laquelle personnellement je participe. Et je veux dire, le péril est aussi à l'intérieur même de l'Occident, lorsqu'on voit le mouvement évangélique, par exemple, en Amérique. C'est un mouvement qui est un peu symétrique à ce qui se passe dans l'extrémisme islamiste. Donc, de ce point de vue-là, ce qui a été dit à propos de l'Arabie Saoudite, évidemment, je le partage profondément, et je l'ai même écrit dans La maladie de l'islam. J'ai des passages entiers là-dessus. Donc, le très grand problème, le mal nous est venu du pétrole, en fait, et de l'argent qu'a suscité le pétrole. Et les pétroliers, en général, sont très responsables, jusqu'à la dynastie Bush. Donc, de ce point de vue-là, il y a une responsabilité profonde, et les responsabilités sont intrinsèquement liées.
Mais dans la tête des gens,
comme je le dis dans La maladie de l'islam, le wahhabisme, qui est l'idéologie donc combattante, ce purisme islamique qui dépouille l'islam de tous ses faits de civilisation, il y a une sorte de désertification du monde. S'il n'y avait pas le pétrole, il aurait été réduit à une secte renvoyée, je veux dire, à l'aridité du désert, et ça n'aurait eu aucun effet. L'immense problème maintenant, ça concerne l'Europe, c'est que dans les négociations qu'on a avec les États, et moi je l'appelle de tous mes voeux, j'estime que nous avons à rappeler les valeurs européennes auxquelles je crois dans les négociations, à mettre en pratique. Le problème énorme de l'Arabie Saoudite, c'est qu'elle se trouve actuellement coincée. Et c'est une très belle occasion pour continuer de la coincer encore plus, parce que elle est sincèrement, géostratégiquement alliée des Américains, alliée de l'Occident. C'est son intérêt, ce sont ses protégés militaires, je veux dire, même en tant qu'État. Mais en même temps, elle lutte d'une manière très très violente contre Osama Ben Laden et contre ses épigones. Nous avons assisté à des combats spectaculaires. Les Américains ont remercié d'ailleurs la police et l'armée saoudienne dans sa guerre, dans son combat interne contre les islamistes. L'énorme problème, c'est lorsque les Américains, par exemple, discutent avec les Saoudiens, ils leur disent « Écoutez, nous avons étudié de très très près vos manuels scolaires, et nous nous rendons compte qu'avec vos manuels scolaires, vous ne pouvez produire que des petits Ben Laden, et que Ben Laden, quelque part, n'est que le passage à l'acte de ce que vous transmettez comme symbolique et comme imaginaire à vos propres enfants. »
Donc c'est pas un problème culturel, c'est un problème politique, économique, géostratégique.
Et à ce moment-là, l'Arabie Saoudite proteste en disant « Ingérence dans nos problèmes identitaires. » Donc il faudra, moi j'envisage les choses totalement dans ce que je crois, et ce que je crois profondément, c'est un horizon cosmopolitique. Et dans un horizon cosmopolitique, c'est-à-dire kantien, dans un horizon cosmopolitique kantien, les Américains, dans leur négociation avec les Saoudiens, doivent être fermes sur les principes et opérants dans la mesure du possible.
Le cosmopolitisme...
Les prendre au mot dans leur guerre contre les Ben Ladenistes.
Le cosmopolitisme, vous y croyez, Alexandre Delval, ou c'est un rêve vieux d'esprit?
J'y crois d'autant plus que l'islamisme n'est pas un phénomène qui est lié à une culture particulière ou à un État, encore moins un État particulier ou un État-nation. Il est déterritorialisé, il est lui aussi, il surfe sur Internet, il est globalisé, et c'est pour ça que s'il y a un choc de civilisation, que moi je n'appelle pas de mes voeux et qui n'est pas ma grille de lecture, mais qui est voulu par les islamistes, je le répète, on accuse toujours l'Occident.
C'est eux qui ont inventé le terme. Hein.
Et ils ont inventé le terme.
C'est pour ça que sans leur influence, l'a réinventé, en fait.
Et Huntington est devenu célèbre. Parce que il plaît chez les islamistes surtout. Ceux qui ont le plus acheté son livre sont des islamistes. Sa thèse ne choque pas du tout. Les islamistes veulent un choc des civilisations qui malheureusement dépasse le cadre des frontières traditionnelles et il passe à l'intérieur des frontières des États occidentaux. Et là, je reviens en Italie, je voudrais témoigner de quelque chose d'absolument stupéfiant. La seule personne qui lutte contre l'islamisme de manière extrêmement ferme et cohérente en Italie s'appelle Mahdi Alam. Il est d'origine égyptienne et il est l'un des plus grands journalistes du pays. Et qui est à la tête du conseil, l'équivalent du conseil français du culte musulman là-bas, hein, c'est-à-dire le projet d'Intesa qui a donné naissance à une consulte, eh bien c'est quelqu'un qui est recherché en Syrie pour terrorisme pour le compte d'une section dissidente djihadiste des frères musulmans, l'un des pires. Alors, ça ne veut pas dire que l'État syrien est à défendre non plus. Mais l'un des pires terroristes d'une section des frères musulmans syriennes est devenu le chef, entre guillemets, de l'islam italien. C'est complètement absurde. Et là, l'Occident a une responsabilité énorme parce que lutter contre ce qui se passe en Arabie Saoudite est relativement difficile de l'extérieur. Mais au moins, l'Occident, qui prétend croire à des valeurs laïques, anti-totalitaires, pourrait au moins montrer l'exemple et laisser s'exprimer en Europe, surtout des représentants, et surtout mettre à la tête de représentation de l'islam de France ou d'Italie ou d'Angleterre, des gens qui adhèrent à un islam, je dirais, serein.
Sauf qu'en France, ça n'a pas vraiment marché.
Dans tous les pays européens,
je pense qu'il faut le répéter,
dans tous les pays européens, les islamistes contrôlent la quasi-totalité du tissu associatif représenté et reconnu au niveau des milliers avec qui on traite.
Et les musulmans modérés... Ça veut dire qu'il y a une sorte de complicité des pouvoirs européens, ça vous
dit ? Les musulmans modérés, comme mon préfacier Rachid Kassi, sont des musulmans qu'on présente comme des individualités. D'ailleurs, le journal Le Monde présente des gens comme Rachid convertis à l'islam, ce qui est absolument faux, pour en plus les discréditer. Mais par contre, les islamistes qui ne connaissent même pas, qui ne sont même pas des savants de l'islam, sont mis à la tête d'organisations qui ont pour but d'empêcher l'intégration et donc de développer ce choc de civilisation interne entre, à l'intérieur même, des frontières.
Le fond du problème, c'est l'intégration, Abdelwahab Medeb.
L'intégration, je ne sais pas, mais en tous les cas, même le rôle de l'UOIF en France, personnellement, je passe ma vie à le dénoncer.
L'UOIF, c'est l'Union des organisations islamiques de France, et c'est un parti qui est considéré comme proche des frères musulmans.
Ils sont en lien organique avec les frères musulmans et pratiquent une stratégie des frères musulmans qu'il faut suivre. Les frères musulmans, je ne sais pas, actuellement, ils subissent l'épreuve de la démocratie. Peut-être y a-t-il espoir qu'ils se transforment, il y a des prémices en ce sens-là, en démocratie islamique qui serait l'équivalent de la démocratie chrétienne. Outre l'histoire de la corruption de la démocratie chrétienne, il joue malgré tout le jeu démocratique. De ce point de vue-là, ce serait important. Vous m'avez convié pour une controverse et je découvre que là, on est dans une convergence plutôt qu'une controverse, loin de là, parce que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit.
Mon combat
est un combat, je vais dire, vigilant, rigoureux, tranchant, et je ne mâche pas mes mots. Ceux qui me lisent, ceux qui m'écoutent le savent, dans le sens justement de cette tâche de l'humanité aujourd'hui, de tout humain, c'est de tout faire pour détacher l'islam de ses démons islamistes.
De ce point de vue, Alexandre Delval est aussi sur la même
ligne. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que des pays comme la Turquie, par exemple, qu'on veut faire entrer dans l'Union européenne, on ne les aide pas en faisant croire qu'on a affaire à des modérés au pouvoir, sachant que et le chef de l'État et le grand mufti du pays, par exemple, ont alimenté les controverses pour l'affaire du pape et exigé des excuses et qualifié l'Europe de croisée.
On ne va pas relancer le débat sur la Turquie.
La Turquie, on ne serait pas d'accord. Je trouve que le projet d'intégration turque est très important.